Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deeply Rooted. On est ensemble pendant une heure pour parler rap US comme d'habitude. On vous avait laissé à Atlanta avec la trappe et ce soir donc on continue cette émission. Et plus globalement ce sera donc une trilogie comme on vous l'avait annoncé la dernière fois. Pour parler avec moi, deux spécialistes à ma droite, Momo.
Et qui est l'enfant du peuple aimé et élu quoi. Comme d'hab, super content d'être là, on va défendre un de mes rappeurs préférés. Je vais défendre un de mes rappeurs préférés.
Voilà. Et de l'autre côté du ring, Jojo qui défendra lui aussi son poulain. Et d'ailleurs les deux zozos que vous allez défendre ce soir ont eu quelques embrouilles d'ailleurs entre eux, on y viendra tout à l'heure.
Et c'est pour ça qu'on est plus ou moins opposés sur cette émission. Donc je ne parlerai pas avec lui, il ne parlera pas avec moi.
Et c'est très bien comme ça.
On vous invite fortement à l'écouter le premier épisode donc sur la genèse de la trappe qui est disponible sur les plateformes de streaming, Spotify et compagnie. Vous tapez Deeply Rooted, vous trouvez ça. Et pour suivre toute notre actu également, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Deeply Rooted, l'émission. Et on commence en vous balançant un premier son, Momo.
Standing Ovation, Young Jeezy, le roi de la trappe. C'est parti.
Et on revient tout de suite. On reprend donc après ce premier son de Young Jeezy, Standing Ovation. Ça va être le premier personnage central qu'on va aborder ce soir. On vous avait parlé de T.I. dans l'autre émission, qui était un autre gros morceau. Pour nous parler de Young Jeezy, c'est Momo qui va s'y coller.
Yes. Avant, alors pour une fois n'est pas coutume, je vais pas parler directement du rappeur, mais je vais un peu parler de son environnement. Et plus précisément, en fait, je vais parler de la BMF. BMF, ça veut dire Black Mafia Family, et c'est une espèce de bande, de gang qui a été créée par Big Mitch et Southwest T, c'est leur surnom. Leur vrai nom, vous irez checker sur internet, c'est la famille Flonetry, voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je veux vous parler d'eux? Parce que c'est des gens qui ont eu un impact sur la carrière de Young Jeezy, et pas seulement que sur la carrière de Young Jeezy, mais faut savoir que c'est des gens qui, à la base, viennent de Détroit, donc ils sont pas en rapport direct avec Atlanta. Et suite à une opération de Southwest T pour c'était un problème d'œil, en fait, c'est parti en vrille et pour le dédommager, ils lui ont filé de la thune. Suite à quoi, les mecs se sont dit, on va faire fructifier cet argent-là, et on va monter un business de drogue. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, en fait, il y a souvent eu cette frontière-là entre les gangs et le rap qui était très mince, en fait, comme dirait Rof, entre le studio et la rue, il n'y a qu'un pas, et là pour le coup c'était le cas. Et donc, comme je le disais, BMF, ces gens-là ont aidé Young Jeezy, et j'y reviendrai un peu plus tard là-dessus. Du coup, Young Jeezy, comment il débute? Ça fait un peu cliché, mais c'est quelqu'un qui
s'appelait pas Young Jeezy à la base.
Il s'appelait pas Young Jeezy, il s'appelle Jay, c'est son vrai prénom, mais au final, on n'est pas très loin. Et voilà, donc il a démarré, j'allais dire, dans la pauvreté, c'est un peu con de dire ça, mais famille pas aisée. Il déménage, quand ses parents se séparent, il déménage avec sa mère dans un trailer park. Alors les trailer parks aux États-Unis, c'est en gros une espèce d'endroit où il y a plein de mobil-homes. C'est comme une résidence, mais c'est des mobil-homes en fait, c'est pas des maisons.
On peut le voir dans certaines séries ou des films, non?
Tu peux le voir dans plein de trucs, je crois que Eminem dans 8 Mile, il vit dans un trailer park, c'est ça, il est dans un mobil-home, dans une caravane, et c'est assez particulier, quoi. C'est des camps, lotissements...
Ouais, donc enfin, en situation précaire quand même.
Exactement, et c'est quelqu'un, parce qu'il est des USA, faut pas déconner, qui est attiré très tôt par l'argent au Young Jeezy, et qui se retrouve en fait très tôt à dealer dans la rue, genre à 11-12 ans, donc tu te rappelles toi, 11-12 ans, ce que tu faisais, imagine-toi que Young Jeezy, lui, était en train de vendre du crack. Et du crack, parce qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il y avait une grosse épidémie de crack. Beaucoup, enfin, une hausse de consommation, enfin, l'arrivée sur le marché, puis une hausse de consommation, c'était assez fou à ce moment-là, quoi. Et donc il commence à traîner dans la rue, à faire des conneries, et il finit par aller dans un camp militaire. Il est envoyé là-bas, une espèce de camp de redressement, un bootcamp, qu'ils appellent, parce qu'il possédait de la drogue. Et bon, il sort de là-bas, et il retourne un peu dans la rue, et il devient père, assez jeune. Et au bout d'un moment, il se dit, la rue c'est bien, c'est dangereux, il va falloir que je sécurise quand même mon avenir et celui de ma famille, et peut-être faire un business propre. Et c'est là où il décide, avec son ami King Kibi, de lancer son label. Il s'appelle CTE pour Corporate Thugs Entertainment.
Mais là, il rappait quand même dans son coin déjà.
Non, pas du tout.
Ah, il n'était pas forcément porté sur le truc.
Ah non, rien à voir. Justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il a lancé le label pour promouvoir d'autres artistes. Donc lui, il pensait pas du tout au rabais au début, en fait. Et il faut savoir qu'à la base d'ailleurs il s'appelait Young Guns Entertainment le label, mais ça a attiré l'œil des flics, du coup ils ont décidé un peu de changer. Donc à la base, il veut vraiment promouvoir des artistes et se faire du blé là-dessus. Et au final, bon an mal an, il se rend compte que lui aussi, il est capable de rapper parce qu'il a des gens sur son label, mais bon, c'est un peu anecdotique à l'époque. Et il se dit, je vais rapper au final, genre j'ai une voix qui est stylée, j'ai une street credibility, go quoi. Et donc il finit par rapper sous le sobriquet de Lil G. Donc avant de s'appeler Young Jeezy, il s'appelait Lil G.
Généralement, il s'appelle Lil quoi au début de leur carrière ou ça dépend vraiment
Je pense au début, c'est ça, tu vois, c'est comme Lil Wayne, c'était. Enfin, ouais, c'est
ils sont pas encore à l'état de maturité, l'éclosion n'est pas totale. C'est sa forme.
C'est très sudiste en fait comme truc, parce qu'à New York, il n'y a pas de Lil Jay-Z ou de Lil Memphis Bleek ou ce que tu veux. Quoi. Mm-hmm. Donc c'est.
Ouais,
c'est...
Tous les préfixes, les particules, les Lil, Young, Big, machin, c'est vraiment le sud à fond quoi.
C'est originaire de base, encore une caractéristique du sud qui est marrante, qui n'est pas liée à la trappe en soi, mais qui est liée au sud quoi. Donc bon, il lance deux projets, dont j'ai oublié les noms, je vous avouerai, parce qu'ils sont pas anecdotiques, mais c'est ses débuts quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il se fait remarquer parce que généralement, t'arrives, t'es rappeur, t'es personne quoi, genre t'es un peu dans ton quartier machin si tu viens d'un quartier. Mais lui, il arrivait, il avait déjà des grosses montres, des grosses voitures. En fait, le mec était déjà.
Il s'est pas donné une image de rappeur bling bling parce qu'il était déjà.
Il était déjà bling bling. En fait, il arrivait à des tout nouveaux, alors qu'il y a des mecs qui en sont plus loin dans leur carrière à ce moment-là. Sont peut-être pas aussi bling bling que lui ou aussi fortunés que lui, donc c'est assez marrant. Et en fait, pourquoi je vous ai parlé de Big Mitch et de BMF au début, c'est parce qu'ils avaient un énorme réseau de clubs de strip, et pour pousser Young Jeezy, ils ont diffusé sa musique dans les strip clubs.
Après, généralement, les clubs de striptease étaient aussi utilisés pour blanchir de l'argent.
Tout est lié au final. Ouais. Quoi. Et c'est marrant parce que je voyais dans un documentaire où en gros, ils allaient voir les stripteaseuses, ils leur disaient là, on va passer ce son, tu te donnes à fond sur ce son là, et genre. En gros, pour rendre le son encore plus puissant, tu vois. Donc il y a vraiment un vrai business là-dessus. Et de fil en aiguille, il commence à se faire connaître. Il croise d'ailleurs dans un club DJ Khaled et Fabulous à ce moment-là, c'est assez marrant. Qui eux sont déjà bien plus installés que lui. Et son buzz pète vraiment avec sa mixtape Trap or Die. Trap or Die, c'est un nom qui va aussi le suivre longtemps.
Après, c'est ce qu'on dit la dernière fois avec T.I. quoi. C'est, lui, il arrive juste après.
Vraiment après.
Ouais.
Peu de temps après cette mixtape là, il la sort en collab avec DJ Drama. Et comme on l'avait déjà dit plusieurs fois, aux États-Unis c'est un circuit, enfin tu peux péter localement. Et il arrive à vendre 200 000 copies en indépendance totale, genre à Atlanta et dans les environs quoi. C'est même pas forcément, enfin peut-être un peu national, mais c'est assez fou quoi. Et du coup, c'est là où les majors commencent à lui courir après. Il y a Def Jam, Bad Boys qui lui courent après. Donc Def Jam, on vous en a déjà parlé, gros label, et Bad Boys, c'est le label de P. Diddy. Et ce qui est fou, c'est qu'il arrive à signer sur les deux en même temps. Donc il est signé sur Def Jam, il est signé sur Bad Boys Records pour monter un groupe qui s'appelle Boys in the Hood, qui est un groupe éphémère, au succès éphémère, mais que Jay-Z a boosté. Et ce qui l'a aussi rendu populaire, c'est un single qui s'appelle So Icy, en featuring avec un certain Gucci Mane, dont Jojo va vous parler après, désolé pour le spoil. Mais c'est un... Voilà, c'est... En fait, c'est le début d'une histoire entre les deux et pas qu'une histoire très tendre, on le verra un peu plus tard. Mais là, pour le coup, on va d'abord s'écouter un deuxième son de Young Jeezy et on va parler de la suite de sa carrière après. Et le son, en l'occurrence, s'appelle It Is What It Is, extrait de l'album Trap or Die 3.
De retour dans Deeply Rooted pour parler trap, rap US avec Momo qui nous avait fait une première partie sur Young Jeezy qui nous avait raconté son ascension et son enfance, comment il s'était mis au rap, etc. On vient de s'écouter It Is What It Is et tu vas nous raconter la suite de son histoire, comment il est devenu l'un des meilleurs, voire le meilleur.
Ah bah le meilleur on peut le dire, mais après peut-être que Jojo vous dira le contraire après, mais bon c'est pas très grave. Là, il avait commencé à péter et c'est son premier album, Let's Get It Thug Motivation 101, il aurait pu faire plus court mais c'est pas très grave, qui le fait connaître nationalement. Et moi, c'est personnellement comme ça que je l'ai découvert. C'est pour l'anecdote un ami qui est parti en vacances à Atlanta qui m'a ramené plein de CD, dont celui-là que j'écoutais sur mon Super Walkman qui pesait la moitié de
mon intérêt. Tu étais en avance sur le rap français et tout ça.
J'étais en avance sur
ça. C'est toi qui as ramené la trappe en France.
C'est moi qui ai ramené la trappe en France. C'est Serge, très exactement. Si tu nous écoutes, gros merci pour ça d'ailleurs. Et je me suis mangé une énorme baffe parce que ça arrivait après l'époque folle de G-Unit en fait. Pas la même sonorité, pas le même style. Et voilà, très fou quoi. Et le mec qui l'a aidé produire ce son-là, vraiment trap qui allait avec sa voix, c'est un mec qui s'appelle Shorty Red. Et c'était vraiment... c'est un artisan de la trap concrètement, c'est un des premiers à avoir fait vraiment éclore le mouvement. Et en plus, c'est un mec qui vient de la Bay Area, dont on vous avait parlé, il vient pas du tout d'Atlanta.
Donc en faisant cette... Tout vient de la baie, les gars, tout ouais. Vient de la baie.
Je crois vraiment que l'histoire du rap vient de
la baie. Allez, écoutez l'histoire de la baie.
Oui, exactement. Et il a apporté en fait une touche qui venait de la baie, et en faisant des petites erreurs, il a produit un son trap. Et voilà quoi, c'est presque une nouvelle sonorité, même s'il y avait déjà T.I. dont on vous a parlé dans l'émission précédente.
Tu veux dire, on retrouve les mêmes rythmiques un peu de T.I. justement les...
C'est un peu plus énervé en fait.
Ouais.
Plus énervé que ce que faisait T.I. mais on est dans la même mouvance, attention. Et c'est en fait sur tout cet album là, en fait, Young Jeezy se mue en ce qu'ils appellent un motivational speaker aux États-Unis. C'est un mec littéralement qui motive les gens en parlant, genre qui est là pour les booster. C'est lui, il se considère même pas réellement comme un rappeur. Son but c'est de faire bouger les gens. Allez faire de la thune, sortez de votre trou.
Tu parles au niveau des paroles et...
Ouais, au niveau des paroles, même dans les thèmes abordés, bah, Standing Ovation, il parle souvent d'argent, mais pas pour dire qu'il en a. Il le dit. Mais c'est aussi pour dire, les mecs, bougez-vous, il y a du fric à se faire, il y a des opportunités, sortez du hood, quoi. Donc l'album est un succès absolu, ça finit platine. Et pour le coup, ça engrange aussi un sacré lot de polémique, parce que son surnom dans la rue, c'était Snowman. Snowman, c'est le bonhomme de neige. Bonhomme de neige parce qu'il vendait de la cocaïne, sauf qu'il a commercialisé des t-shirts avec ça, et donc t'as plein de gens qui l'achetaient, notamment, aucun racisme là-dedans, mais plein de petits ados blancs qui l'achetaient et sans savoir ce que c'était, ils trouvaient juste...
Ah, ils savaient pas ce que c'était. Non. Parce qu'autant tu peux le savoir, et c'est une référence...
C'est des petits ados de 13-14 ans, le mec qui fait du gros rap, ils voient un t-shirt avec un bonhomme de neige un peu méchant, ils font ouais c'est stylé quoi, sur un grand t-shirt XL, c'était la mode à ce moment-là en plus. Sauf que c'est les parents qui découvrent ça, et du coup aux États-Unis il y a plein d'associations de parents, de machins, qui lui prennent la tête, qui lui font interdire son merchandising, etc. Voilà. Et du coup il se retrouve aussi mêlé à des affaires judiciaires lié à BMF, donc à Black Mafia Family dont je vous parlais en tout début d'émission. Il se retrouve mêlé dans une enquête fédérale et voilà, pas très cool. Ceci étant, sa carrière musicale continue à prospérer sur de bons rails, hein, sans faire de...
C'est pas mal pour quelqu'un qui n'était pas rappeur à la base ou qui se voyait pas forcément là-dedans.
Ah oui, c'est dingue, lui il part vraiment d'un truc pour faire de l'oseille et blanchir son argent. Il finit album de platine et aimé de tout le monde et c'était fou quoi. Donc son deuxième album, The Inspiration, est un succès. Son troisième album qui sort en 2008, The Recession, c'est aussi un succès, mais il prend un tournant un peu différent parce qu'il devient plus politique dans ses propos. Je dis pas que c'est Malcolm X, attention, mais en fait, ce qu'il veut faire dans cet album-là, et en l'ayant appelé The Recession, au moment où les États-Unis rentrent pas en crise, mais en récession, c'est un peu pour, comment dirais-je, permettre à ces gens-là de comprendre le sujet en le démocratisant, mais en le... J'en perds mes mots. Merci en le vulgarisant, merci Jojo. Je serai plus gentil avec Gucci Mane la prochaine fois. Et voilà. Et... Ah, c'est un peu triste du coup, bah, je vais arrêter d'être gentil. Et moi, là où je vais m'intéresser maintenant, est Young Jeezy, parce qu'il a fait plein d'albums après, attention. Et il y a que... Enfin, globalement, ça reste de la bombe.
Donc là, à Atlanta, il casse tout, même s'il y a d'autres têtes d'affiche comme on l'a vu, et on le verra après. Et nationalement aussi.
Ouais, nationalement, ouais. Il est porté par Def Jam en plus, donc le mec fait des signes.
Ouais, il fait partie des grands. Quoi.
Ouais, il fait partie des grands, je veux dire, il est pull-up par T.I., par Usher, par Jay-Z. Toutes les têtes d'affiche de là-bas le valident et kiffent travailler avec lui. Et du coup, je vais m'intéresser plus à son côté politique là de suite qu'à sa musique, parce qu'on pourra en parler, mais je pense que le côté plus politique est aussi intéressant à aborder. C'est quelqu'un qui s'est intéressé au mouvement Black Lives Matter avec Jay-Z par exemple, ou LeBron James, qui disait que c'est après que des gens des Afro-Américains se sont fait tuer par la police, pas un peu gratuitement. Je pense que c'est un sujet beaucoup plus profond que ça, donc je vais pas l'aborder maintenant, mais lui s'est investi là-dedans, il s'est investi aussi dans la campagne de Barack Obama, et c'est un mec aussi qui a eu des réflexions intéressantes à mon sens sur les tueries de masse. Vous l'expliquez que par exemple, quand c'était des musulmans qui faisaient quelque chose, on blâmait la religion. Quand c'était des noirs, on disait que c'était la culture. Et quand c'était une personne blanche, on disait que c'était une brebis galeuse, un loup égaré, quoi. Oui, voilà, un fou. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est aussi quand même relié à ce que nous, là, on vit en ce moment, mondialement et en France. On va revenir un peu à sa musique. Il a sorti un album qui s'appelle Church in the Street, sorti en 2015. à la fin du second mandat de Barack Obama. Et là, pour le coup, c'est plus un motivational speaker, mais il se positionne un peu en tant que pasteur de la rue. Je pense que le mec aime bien changer de costume. Et voilà, son but, c'était de donner un peu un point de vue réaliste de l'état du pays, de sa ville. Mais aussi un point de vue pessimiste, optimiste pardon, et positif.
Après, dans ses chansons, quand t'écoutes, c'est... Enfin, nous, d'un point de vue extérieur, quand t'écoutes, t'as l'impression quand même que c'est du son... genre très bougeant, enfin c'est pas un, comme nous on pourrait imaginer, je sais pas, du rap conscient où il t'explique exactement comment il faudrait penser, qu'il faudrait se révéler, ou... Parce que quand tu l'entends, il est super dynamique, ça envoie des grosses instrus.
Je pense que déjà il arrive à bien marier les deux, c'est-à-dire qu'il va pas faire tout un album où il prêche, ou tout un album où il est totalement fou, enfin quoique les albums où il est totalement fou, il fait que des sons bougeants, il le fait plus. Mais ils arrivent à mélanger les deux styles, avoir des gros instrus et quand même délivrer un message. Encore une fois, c'est pas les plumes du rap US, attention. Mais il n'empêche qu'il pourrait se contenter de parler de sexe, drogue et rock'n'roll, mais il ne le fait pas. Et il parle quand même de pas mal de choses, du système judiciaire, parce que c'est quelque chose qu'il a connu, de la vie de la rue, du ghetto. Et voilà, t'as plusieurs manières d'aborder le sujet. Lui, je pense qu'il l'aborde quand même d'une manière plus sympa et plus motivante que des gens, que d'autres rappeurs, quoi. C'est quelqu'un aussi qui a donné, enfin, un titre d'exemple, qui a hébergé des gens chez lui durant l'ouragan Katrina. Donc je pense qu'il a quand même ce côté où c'est plus qu'un rappeur. C'est genre, il représente sa communauté, il veut faire des choses. Voilà. Pour conclure sur Young Jeezy, c'est un mec qui a sorti 27 projets solo, plein de feats, une voix que personne n'a.
Si tu devais conseiller peut-être un album pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre, peut-être pas son meilleur, mais le premier pour rentrer dans le délire.
Ouais, le premier. Let's Get It Talk Motivation 101, moi ça m'a mis une énorme baffe. Ou sinon, ouais, Trap or Die 3, ou ouais, c'est ces deux albums là.
Et toi, Jojo, enfin, je sais pas si toi t'as beaucoup écouté, tu peux peut-être dire un mot aussi.
Moins que Momo, je pense, mais pour le coup, je dois bien avouer que Talk Motivation 101 est assez lourd.
Et le troisième aussi,
c'est que des tartes dans la gueule pendant une heure.
Et voilà, Young Jeezy, très gros artiste. Et ce que je vous propose du coup, c'est qu'on s'écoute le morceau dont on vous a parlé un peu plus tôt, enfin le featuring Gucci Mane et Young Jeezy, qui s'appelle So Icy et qui va nous permettre d'embrayer parfaitement sur la partie de Jojo. À toutes.
De retour dans Deeply Rooted après cet interlude musical et Gucci Mane et Young Jeezy avec So Icy. Et là, c'est Jojo qui va enchaîner. Il était un peu réservé sur la partie de Momo. Là, d'habitude, il s'exprime plus, mais je crois qu'il gardait tout.
Non, mais moi, j'avais annoncé dès le début, je participerai pas trop. Je ne veux pas m'impliquer dans tout ce qui touche à Young Jeezy.
Parce que later,
aujourd'hui, j'ai pris trop à cœur le personnage dont je vais parler.
On va te laisser nous vendre un peu, monsieur, du coup.
Voilà, donc moi en fait, là maintenant je vais aborder le sujet, donc je vais parler du pire cauchemar de tous les puristes et autres amateurs de rap conscient, c'est-à-dire forcément Gucci Mane, a.k.a. Guwop, a.k.a. La Flair, de son vrai nom Sir Roderick Davis. Donc en fait, je vais faire un peu le même couplet que Momo pour le coup sur son début. Au début c'est une pauvreté, etc. Il grandit en Alabama. Avec ses frères et sœurs, ils sont élevés seuls par sa mère.
Attends, Alabama, c'est pas du tout à côté d'Atlanta.
Alors là, putain, là, tu me poses une colle, je sais même pas exactement où c'est, mais sinon, c'est pas le même état.
Je viens de te piéger, là.
Mais il y a même pas de Géorgie, quoi, c'est honteux. Voilà.
Après, il déménage à l'âge de 9 ans, avec toute sa famille, dans la zone 6 d'Atlanta. C'est important de le dire, parce qu'Atlanta, du coup, est découpée, je crois, en 6 zones. Je crois que c'est que 6. C'est un peu comme des arrondissements, mais plus vaste, je pense. Et la zone 3, la zone 6, c'est un peu les zones les plus chaudes. Donc, la plupart des rappeurs viennent de ces quartiers-là. Donc, à l'âge de 9 ans, il se retrouve comme ça dans ce milieu un peu difficile, on va dire. Et il se met très vite à traîner dans la rue, à se débrouiller, etc. Et en plus de ça, sa mère, qui était donc célibataire, elle se retrouve avec un gangster, en fait, qui vient vivre à la maison, un gangster qui est connu pour s'habiller de manière très élégante et qu'on surnomme le Gucci Man. Et donc ça deviendra rapidement un de ses modèles à Gucci, enfin à Roderick Davis, qui n'est pas encore le rappeur, et qui va donc observer un peu ce que fait son beau-père, du coup, comment il gère son trafic, etc. Il va un peu observer, il va lui-même monter son propre business à partir de l'âge de 13 ans. Il faut savoir aussi qu'il a commencé à consommer de la lean à partir de l'âge de 9 ans. Donc le mec, faut dire qu'il a le cerveau qui est déjà vrillé dès
la ligne. On peut nous faire un petit rappel peut-être.
La ligne, c'est la boisson phare des rappeurs. On en avait parlé.
La boisson codéinée, souvent accompagnée de Sprite.
C'est du Sprite, du sirop pour la toux et des trucs opiacés. Ça te fait un mélange tout rose et sensation d'euphorie d'être dans du coton. T'es flex quoi. Mais ça rend très dépendant, ça tue
ouais,
des gens.
C'est particulièrement dangereux. Quoi.
Voilà. Donc lui, il faut s'imaginer qu'il a pris ça dès l'âge de 9 ans et qu'après, il a sûrement touché un peu à d'autres drogues. Donc le cerveau qui est vite un petit peu attaqué par ce genre de substance. Et donc, comme il se lance dans le deal, il y a aussi d'autres embrouilles qui arrivent, c'est-à-dire toute la violence qu'il avait, qui se fait braquer à un moment donné pour lui voler son stock. Très vite, il s'arme lui-même, les embrouilles avec la police, les petits allers-retours en prison, etc. Il commence très vite à baigner dans ce genre de trucs. Mais il avait observé très jeune déjà le rappeur Big Daddy Kane et il s'est dit ça c'est un exemple de réussite de manière légale. C'est... Donc il avait cette obsession en tête de faire du rap pour arriver à ce stade là.
Donc tout le monde a fait du rap pour faire pour blanchir de l'argent en fait.
Bah dans le sud je pense qu'il y en a en tout cas une plus grande proportion.
C'est le principe des trap house, hein. T'as un studio où tu cuisines de la drogue en dessous et en haut tu t'as un studio, inversement un studio pour faire de la musique et blanchir ta thune.
Voilà, mais donc Gucci Mane aussi, enfin Radric Davis qui va donc une fois se lancer dans son projet rap, va s'appeler Gucci Mane, donc Big Gucci Mane d'ailleurs au tout début, en référence donc à ses deux mentors, c'est-à-dire Big Daddy Kane et Gucci Mane son beau-père. Il va, en tout cas, pendant toute sa carrière, vraiment être entre la rue et le studio. Et, il quittera jamais son mode de vie qu'il a adopté très jeune et qui va lui valoir bien des emmerdes. Il sort un premier disque en 2001 qui n'est pas très bien marché, qui est resté en indé, qui s'appelle La Flair, donc un de ses nombreux surnoms. Mais c'est en 2005 qu'il perce avec justement les singles Icy et Black Tea donc, sur son premier album Trap House. Donc ces deux singles là accompagnés de Jeezy, Black T, il y a aussi d'autres rappeurs.
Donc lui il sort un petit peu après Jeezy ou carrément après
concomitant après
ça. C'est vrai concomitant, c'est ça, c'est 2005 les deux premiers albums, enfin Let's Get It, Take Motivation 101, c'est en 2005. Donc la même année que Trap House. Et donc ce morceau, notamment Soit Ici qui sera un gros succès, va être à l'origine de l'embrouille entre les deux rappeurs puisque Jeezy va se plaindre de ne jamais être payé et jamais recevoir les royalties sur ce morceau. Et justement, c'est ça qui va donner lieu à un des événements les plus marquants, les plus graves de la vie et de la carrière de Radric Davis. C'est qu'un soir, quand il rentre chez lui, il retrouve quatre mecs qui sont armés et qui sont là pour... On ne sait pas exactement s'ils veulent le buter ou en tout cas...
L'impressionner.
Ils sont clairement pas des intentions très amicales. Lui, comme il est armé, Gucci, forcément, il sort son flingue et puis ça part en couille, quoi. Et donc, ça échange le coup de feu. Et il y a un des quatre types qui est mort. Et il se trouve que un de ces quatre types, il s'appelle Pookie Lock. Et il est, en tout cas, affilié de près ou de loin, je ne sais plus exactement, mais on sait qu'il a des liens avec Jeezy, quoi. Il y a aussi un autre des quatre mecs qui fait partie du label Corporate Tugs de Jeezy. Donc, voilà... beaucoup d'éléments on va dire qui poussent à croire que Jeezy est derrière cet événement assez tragique. Gucci Mane il va pas en prison à cause de cet épisode parce qu'il a été il a plaidé la légitime défense et ça a été retenu. Par contre il va quand même en prison pour autre chose puisque de toute façon il va tout le temps en prison.
Oui, ce que j'allais dire, c'est quand même un spécialiste des allers-retours.
Je sais pas s'il y a d'autres rappeurs qui soient à ce point là habitué aux peines de prison.
Il y a Bobby Shmurda qui est en train de purger comme jamais.
Mais aussi productif et aussi souvent en prison. Là, par contre, c'est...
Ah, on est tout seul sur la planète à faire ça.
Donc voilà, donc en fait, justement, il ressort de cette peine de prison là, mais qui, même si c'était pas pour cet événement, il a quand même buté quelqu'un. On sent quand même que déjà dans son cerveau, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là qu'en fait naît le vrai Gucci musicalement. Il sort sa première mixtape qui sera la première d'une très 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 longue série. Le mixtape s'appelle Chicken Talk, elle est quasiment intégralement produite par Zaytoven et on peut déjà voir toute la formule en fait de Gucci qui est présente. C'est-à-dire que c'est, tu vois, des lyrics qui tournent toujours, mais toujours autour des mêmes thèmes. Toi tu disais tout à l'heure que Young Jeezy c'est pas limité, sex, drogue et rock'n'roll, Gucci il s'en bat la race, il est resté là-dessus. il a un flow qui est quasi monotone. Tu pourrais, enfin, en fait, tu crois comme ça qu'il est super monotone, mais en fait, il s'adapte vachement bien à tout type de beat. C'est vrai, ce qui lui permet, enfin, ce qui permet à ses producteurs de vachement pouvoir expérimenter, en fait. Et lui, comme en plus, il est hyper productif.
Et il chantonne un peu, non?
Ouais, il chantonne un peu. Je sais pas si tu peux appeler ça chantonner. C'est
ouais, il allonge un peu, quoi. Ouais.
Ouais. Ouais, il est capable, en fait, qu'il a une voix assez surprenante, dans le sens où tu pourrais croire que, à la première impression, ouais, c'est hyper monotone, hyper monocorde, mais en fait, tu sens qu'en fait, il est capable de faire plein de choses différentes. Et mais surtout, en fait, au-delà de sa voix, c'est sa prononciation. On a l'impression qu'il a tout le temps de la purée brûlante dans sa bouche, tellement, enfin, c'est son... Sa façon de prononcer les mots est complètement what the fuck, enfin, je comprends rien. T'as besoin de 3-4 écoutes des fois pour comprendre ce qu'il dit. Enfin, pour moi, c'est encore pire dans le sens où je suis pas anglophone, enfin, je suis pas ma langue maternelle, quoi. Mais même là-bas, tu vois, ils ont du mal à comprendre.
C'est très atlantesque, la patate dans la bouche.
Ouais,
les gens du sud, globalement, et Atlanta.
Oui, c'est ça, c'est évident. De base, il parle vite avec l'accent, en plus à Atlanta, et en plus, lui, il est. Une prononciation comme tu dis,
ah bah, pour le coup Tia il est pareil, hein. C'est
genre... Alors Tia je trouve qu'il a un accent plus prononcé, mais c'est il mange moins les mots quand même que Gucci qui lit vraiment, je te jure, hein.
Ouais, je trouve aussi
que c'est assez incroyable, enfin je trouve que t'as vraiment l'impression qu'il a un truc dans la bouche, quoi. Enfin voilà, et du coup après les grandes années de ce qu'on appellera mixtape Gucci, donc c'est 2008-2009 là où il est vraiment top de sa forme, j'ai l'impression qu'il passe son temps en fait entre le studio et la prison.
Il fait une impression, je crois.
Ouais, bah en fait, c'est réellement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il sort, je crois, sur ces deux années, quasiment 30 projets, quand même énorme, en 2 ans. Et je crois qu'il passe sur les 2 années quasiment la moitié de son temps en prison.
Parce qu'il se fait tatouer aussi toute une seule. Pas encore. Tu y viendras, d'accord.
Pas encore. Mais c'est justement là que c'est la magie de Gucci, elle opère. C'est justement dans ces années-là, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il balance tout ce qu'il a sur le cœur direct. Dès qu'il écrit un truc, bim, ça fait un morceau. Ça a une sorte d'impression de live en fait quand tu l'écoutes. Et ce qui est en plus amplifié par le fait que ce soit tout le temps des mixtapes, souvent assez mal mixés, et qu'il y ait les DJ de mixtapes pardon, qui hurlent, qui bug sur le truc pour un peu vendre.
Tu ouais, sais. Bien sûr.
Merci DJ Drama d'ailleurs de crier.
Voilà,
tout le temps
DJ aussi. Drama, DJ Scream, DJ toute une clique, ils sont incroyables. Ils sont souvent mal aimés, moi je les aime bien parfois, tu vois, ils apportent un truc, notamment sur les. Quand tu veux justement avoir cette impression de live sur Gucci Mane. Donc c'est dans ces années-là qu'il est, je pense, au top. Je te propose d'écouter un morceau issu de la mixtape The Movie, qui est une des mieux produites, on va dire. Et donc le morceau s'appelle On Top of the World. Bonne écoute.
À tout de suite. Vous êtes toujours dans Deeply Rooted pour parler rap US, pour parler trap d'Atlanta avec nous. Je suis toujours avec Joachim et Momo. Jojo qui va nous faire la dernière partie sur Gucci Mane, car tu avais encore des choses à nous dire.
Oui, c'est loin d'être fini. L'histoire, il y a encore des choses à dire. J'étais resté donc sur les années 2008-2009, qui sont un peu le summum de Gucci Mane en termes de productivité. Et on sent que c'est là où il est le plus chaud, quoi. Fin 2009, il y a un album... duquel il attendra beaucoup, c'est The State versus Ratrick Davis, qui restera son plus gros succès, mais qui malgré tout est décevant pour lui, c'est-à-dire qu'il s'attendait quand même à plus. C'est vraiment l'album où il s'est dit ça, je veux complètement percer nationalement avec cet album. Ça n'a pas vraiment marché, je pense que ça l'a un peu convaincu qu'il était trop hardcore pour le grand public en fait.
Parce que là il est signé chez qui à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, il a son propre label qui commencé. À la base, son label s'appelait SoIC Entertainment. Après, je sais pas si à cette époque ça avait déjà changé, je crois pas. Parce qu'après, il créera son propre label 1017 Brick Squad. Mais sinon, cet album-là, il sort sur Warner.
D'accord.
Voilà. Il a une signature majeure, donc c'est pour ça aussi qu'il a énormément d'attentes. Mais ça marche pas aussi bien qu'il le voudrait. Et je pense que ça aussi contribue à le faire vriller encore plus, à se dire, mais de toute façon, moi, finalement. Ce qui marche le mieux, c'est les mixtapes.
Parce que ces mixtapes, quand tu dis qu'elles marchent, c'est quoi? Parce qu'il les vend, ces mixtapes? Il les met gratos sur Internet?
Non, c'est que du gratos sur Internet, mais après, ça lui assure une certaine présence, tu vois, dans le paysage rap.
Ok, mais il gagne pas d'argent sur ces
Non, après, je pense qu'il y a 2-3 deals obscurs, justement, comme on disait, avec des strip clubs, ce genre de choses. Après, les des choses, j'imagine, des choses comme ça.
Il fait des featuring aussi.
En tout cas, ça lui permet, en termes d'image, d'être tout, enfin, il est tout le temps sur le devant de la scène. Ça, en plus des polémiques, parce qu'il fait tout le temps de la prison, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le pire cauchemar un peu des journalistes bien pensants, etc. Enfin voilà, Gucci Mane fait peur, tu vois, à ce moment-là. Et ça va empirer, en fait, les années suivantes. Parce qu'en 2010, il se calme un petit peu. Il sort encore pas mal de tapes, certaines pas mal, mais la plupart sont. Il y a un petit peu une baisse de régime. Et c'est en 2011, début 2011, qu'il y a, après avoir tant de fois retourné en prison, à chaque fois c'est pour des violations de sa période probatoire. Là, cette fois, il se fait une énième fois juger, et au lieu de partir en prison, il se fait envoyer à l'HP, en fait, parce que pour la nature de ses débordements qui sont complètement what the fuck. Il semblerait que ce qu'il a envoyé à l'HP, c'est qu'il a balancé une femme de sa voiture qui était en train de rouler. Comme ça, parce que voilà, à ce moment-là, il était complètement drogué. Il était tout le temps. Dans une interview plus récente, il disait qu'à cette époque, il buvait même plus d'eau, il buvait que de la lime.
Ouais.
Donc voilà, le mec avait le cerveau complètement attaqué. Et donc, c'est à la sortie de l'HP qui se fait tatouer justement un cône sur la joue.
Un cône de glace.
Droite, un cône de glace, voilà, parce qu'il est sauvé ici, encore une fois. Qu'il a une formule qu'il poursuivra toute sa carrière. Et donc voilà, 2011, il a compris qu'en gros, il resterait dans l'indépendant, il ferait ses trucs, ses street albums, dans son label 1017 Jack Squad. Et c'est après, en 2012-2013, qu'il y a un nouveau tournant. C'est là où il est, entre guillemets, le plus fou. Vraiment, à ce moment-là, c'est le méchant du rap, vraiment. Tu vois des interviews où les intervieweurs ont peur de lui, vraiment. Genre, ils savent pas trop quoi lui poser comme question. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on
voit pas trop ses clips tournés, si nationalement et internationalement, comme tu dis, il fait peut-être trop peur même pour marcher réellement.
Bah, il est pas vraiment propagé par les médias mainstream, quoi. C'est-à-dire que si tu t'intéresses au rap, forcément tu suis un peu et tu vois un peu qui il est. Mais non, en tout cas, il a pas.
Même en France, tu vois, je pensais, on n'a pas vu débarquer Young Jeezy, on a vu quand même des gros clips, des gros hits qui arrivaient, T.I. pareil, et Gucci Mane, je pense, pour quelqu'un qui a écouté en France du rap.
Bah, pas tellement, non, il a beaucoup moins de visibilité en fin de compte.
À ce moment-là, en tout cas.
Ouais, à ce moment-là.
Non, il a une énorme fanbase, quand même.
Mais en tout cas, il y a une sorte d'évolution de son son. C'est là aussi où il est intéressant, c'est qu'il arrive vraiment, en fonction des producteurs avec qui il travaille, il a toujours su faire évoluer son son. Donc là, 2012-2013, il a de plus en plus de prod de Mike Will Made It, et qui est d'Atlanta, hein, évidemment, et de Lex Luger.
Incroyable,
et Lex Luger. Il se proclame lui-même Trap God. Toi, tu disais que Jeezy était le roi de la trap. Bah, Gucci est juste le dieu, donc bon.
Et le king de la trap, c'est pas Thierry, hein.
Voilà, c'est ça.
Moi, je voulais pas blasphémer à la base.
Mais donc il se dit Trap God, il se dit même Trap Scholar, c'est-à-dire l'érudit, le savant de la trap. Mais c'est intéressant de voir ça parce que c'est, pour moi, Gucci Mane, c'est celui qui représente le mieux la trap, c'est-à-dire dans son mode de vie, dans son, enfin, tout en lui est trap, quoi, tu vois. En termes d'influence, c'est là aussi qui sera très important, c'est-à-dire qu'il va à la fois être sur des trucs très vénères à la Waka Flocka qui donnera naissance plus tard à la Drill, etc. On en avait déjà parlé dans notre émission sur Chicago. Et à la fois, il va être aussi un des premiers sur la trappe plus mélodique, mélancolique, qui sera plus tard un peu presque dominant à Atlanta avec Future et Young Thug. Et de toute façon, dans ces années-là, fin des années 2000, début 2010, n'importe quel artiste à Atlanta qui veut percer, bah, soit il collabore avec Gucci, soit il se fait carrément lancer par Gucci, quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même partout. Et il y a totalement incontournable. Je pense à Future, Migos qui ont, au début de leur carrière, collaboré avec lui, et Young Thug, Waka Flocka qui ont carrément débuté avec lui, enfin qui se sont fait, en tout cas, fait connaître grâce à lui. Donc, on revient donc sur notre chronologie. En 2013, il se fait arrêter pour la énième fois, et là, cette fois, il fait face à des charges un peu plus lourdes. Il fait face quasiment à 20 ans de prison. Finalement, son jugement retient 3 ans. Et c'est là où il se dit, bon, c'est peut-être ma dernière chance de rédemption. Là, il est revenu, du coup, après ces 3 ans au cours desquels il a encore inondé le marché de mixtape, hein, faut pas croire que ça l'arrête. Mais il est revenu en 2016, il avait tellement changé qu'il y a une théorie, forcément, on est à l'âge de l'internet, où bah, il y a plein de gens qui pensaient que c'était un clone. Et je te jure que quand tu regardes des interviews après 2016 et avant cette peine de prison, donc en 2013, bah, ça n'a rien à voir, quoi. L'attitude, la maturité du gars, tu voyais qu'avant il était complètement fou, un peu drogué, tout le temps dans la rue et tout le temps dans une sorte de paranoïa de rue, quoi. Et après, le discours complètement posé, super sain, super... c'est vrai que c'est quand même assez surprenant.
Même physiquement, il a grave changé avant. Il était,
trapu,
bien bedonnant. Il est sorti, le mec, il est...
Il a cherché même un peu à cacher son tatouage, justement, sur la joue.
Qu'il avait sur le visage. Il s'est pas marié aussi. Enfin, c'est un truc tout bête.
Si, si, il s'est marié. Alors, pas directement dans sa prison, mais...
Puis des années de prison, ça peut quand même le changer aussi, même si la théorie...
Ah oui, non, mais là, je pense que vraiment, comme je te dis, c'était... Voilà. Il faisait face à 20 ans de prison, il s'est dit bon, en fait, je peux encore m'en sortir. Et ouais, voilà, il a utilisé ce temps-là en prison pour justement faire quelque chose de positif. Il a sorti récemment son 101e projet.
C'est incroyable, il faut quand même le souligner.
Qui doit être à peu près son entre 10 et 15e depuis sa sortie de prison. Donc bon, ça fait à peine 3 ans, quoi. Il est globalement moins inspiré, c'est triste à dire, mais bon, c'est souvent comme ça, quand les artistes sont les plus fous, bah c'est là aussi ils racontent les choses les plus intéressantes. Mais finalement, Gucci, pour moi, ça n'a jamais été que ça, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de grande étendue, tu vois, où tu peux pêcher, en fait. Tu vois, t'as l'impression que c'est lisse, t'as l'impression que c'est toujours pareil, mais si tu regardes bien, en fait, bah t'as des petits trucs et tu peux partir à la pêche à la ligne, tu vas choper soit une petite breloque de merde, soit des fois un putain de diamant, tu vois. Donc je le résumerai un peu comme ça, et pour terminer, je citerai le plus grand expert de S. Gucci Mane de France, c'est-à-dire Nicolas Pellion du blog Pure Baking Soda, qui dit « T'auras toujours tort si tu penses que Gucci est mauvais, et t'auras toujours l'air suspect si tu dis que Gucci est génial. » Gucci n'est certainement pas génial, c'est juste un rappeur moyen, mais qui, par son mode de vie, son mode de production et l'influence qu'il va exercer sur toute la scène d'Atlanta et... forcément la scène d'Atlanta, vu qu'elle a une énorme influence sur toute la scène nationale même, et ben ça en fait toujours un rappeur très fascinant. Et moi même, pour terminer, j'oserais dire que je le comparerais à un fromage. Je trouve qu'en fait Gucci Mane c'est un camembert, c'est-à-dire que tu pourras écouter n'importe quel truc, ça sera toujours pareil mais toujours un peu différent. Donc je conseillerais à celui qui veut se mettre à Gucci Mane, qu'il écoute un projet au hasard sorti entre 2008 et 2013. Et voilà, t'auras du Gucci, t'auras du bon, du mauvais, mais en fin de compte, c'est classique, c'est du camembert, tu vois.
La dernière fois que j'ai entendu une...
C'était le capote
qui avait fait une corrélation entre ses sons et un plateau de fromage.
C'est vrai.
On est sur le même combat, là, pour le coup.
On peut faire des rapprochements entre les deux personnages.
Bon, en tout cas, merci Jojo pour ce bel aperçu de la carrière de Gucci Mane.
Vive le camembert, hein, faut pas oublier.
On a senti les tripes qu'il a mis dans ce.
C'était pas assez long, hein. J'aurais aimé avoir plus de temps pour en parler. Mais...
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura le temps de parler de toutes ces progénitures. Enfin, les progénitures de Gucci Mane, de Young Jeezy, de T.I., de la trappe en général, parce qu'il y a du beau monde qui arrive après. Il y a, comme tu le disais tout à l'heure, Young Thug, Future, Migos. Autant de rappeurs.
Les Carti, l'Illusiver.
Voilà, autant de bons et de moins bons rappeurs qui vont arriver derrière et qui vont arroser la scène nationale, mais aussi internationale, parce qu'on sera obligé de dire un mot sur les influences en France et ailleurs. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. On a une page Facebook, c'est Deeply Rooted l'émission. On est sur Spotify, etc. Vous tapez Deeply Rooted, vous pouvez nous retrouver et nous donner de la force, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la trilogie, qui sera donc sur la trappe d'Atlanta. Et d'ici là, on vous souhaite le meilleur.
Mais avant tout, on va quand même s'écouter un dernier morceau. Et c'est un morceau de pas n'importe qui, c'est Waka Flocka Flame, le cousin de Gucci Mane, et qui est un peu le meilleur représentant de la trappe vénère post-2010. Je conseille à tout le monde d'écouter Flocavelli. Cet album, c'est la guerre. En attendant, on va quand même s'écouter un morceau où il est accompagné de Gucci, c'est The 15th and the First. Donc, issu du projet Ferrari Boys. À la prochaine.
Ciao.
Ciao.